Le cardinal envoûte le roi.
L'homme n'était pas gardé par des sergents ou des archers, ainsi qu'un prévenu ordinaire, mais encadré par deux jeunes gentilshommes au service du comte de Poitiers. Il portait un froc trop court qui laissait voir un pied tordu. Louis X lui porta à peine attention. Il salua de la tête ses frères, son oncle Valois et messire Mils de Noyers, qui s'étaient levés à son entrée.
« De quoi s'agit-il »
demanda-t-il en prenant place au milieu d'eux et en faisant signe qu'on se rassit.
« D'une sombre et tortueuse affaire de sorcellerie, nous assure-t-on, répondit Charles de Valois avec une nuance d'ironie.
« Ne pouvait-on pas charger le garde des Sceaux de l'instruire lui-même, sans me déranger dans mes soucis ?»«
C'est tout juste ce que je faisais observer à votre frère, Philippe, » dit Valois.
Le comte de Poitiers croisa les doigts d'un geste tranquille. « Mon frère, dit-il, la chose m'est apparue importante non point tant pour le fait de sorcellerie, qui est assez commun, mais parce que cette sorcellerie semble s'être accomplie au sein même du conclave, et qu'elle nous ouvre la vue sur les sentiments que certains cardinaux nourrissent à notre endroit. » Un an plus tôt, au seul mot de conclave, le hutin eut montré une vive agitation. Mais depuis qu'en faisant supprimer sa première femme il avait pu convoler, l'élection du pape l'intéressait beaucoup moins. « Cet homme se nomme Évrard, » continua le comte de Poitiers.
« Évrard, » répéta machinalement le roi.
« Il est clerc à Bar-sur-Aube, mais il a appartenu naguère à l'ordre du Temple, où il avait rang de chevalier. »«
Un templier, ah oui !» fit le roi.
« Il est venu se livrer, voici 2 semaines, à nos gens de Lyon qui nous l'ont envoyé. »
« Qui vous l'ont envoyé, Philippe ?» précisa Charles de Valois.
Poitiers feignit d'ignorer la pointe et poursuivit. Évrard a dit qu'il avait des révélations à faire, et on lui a promis qu'il ne souffrirait aucun mal à condition qu'il avoue bien le vrai, promesse que nous lui certifions ici. D'après ses déclarations, le roi avait les yeux fixés sur la porte, guettant l'apparition de son chambellan. Seul le préoccupait pour l'heure ses chances de paternité. Le plus grand défaut de ce souverain était peut-être d'avoir l'esprit toujours requis par une autre question que celle en débat. Il était incapable de commander à son attention, ce qui constitue la pire inaptitude au pouvoir. Il fut surpris du silence qui s'était établi et sorti de son rêve. Seulement alors il regarda le prévenu, remarqua son visage parcouru de tics, ses longues mâchoires maigres, ses yeux noirs un peu fous, sa bizarre pose déhanchée. Puis, revenant à Philippe de Poitiers,
« Eh bien, mon frère, » dit-il.
« Mon frère, je ne veux point troubler vos pensées, j'attends que vous ayez fini de songer. » Le hutin rougit un peu.
« Non, non, je vous écoute bien, continuez. »
D'après ses déclarations, Évrard serait venu à Valence pour y trouver la protection d'un cardinal au sujet d'un différend qu'il avait avec son évêque. « Il faudra d'ailleurs tirer ce point au clair, » ajouta Poitiers en se penchant vers Mils de Noyers qui conduisait l'interrogatoire. Évrard entendit, mais ne broncha pas, et Poitiers enchaîna. À Valence, Évrard aurait fait, par hasard, prétend-il, connaissance du cardinal Francesco Caetani.
« Le neveu du pape Boniface, » dit Louis pour prouver qu'il suivait.
« C'est cela même. » Et il serait entré dans l'intimité de ce cardinal, fort versé en alchimie, puisque il a chez lui, toujours au dire d'Évrard, une pièce emplie de fourneaux, de cornues et de poudres diverses.
« Tous les cardinaux sont plus ou moins alchimistes, c'est leur marotte, » dit Charles de Valois en haussant les épaules. « Monseigneur Duèze a même écrit un traité là-dessus. »«
C'est exact, mon oncle. Mais la présente affaire ne ressort pas précisément de l'alchimie, qui est science fort utile et respectable. Le cardinal Caetani voulait trouver quelqu'un qui pût évoquer le diable et procéder à des envoûtements. » Charles de la Marche, imitant l'attitude ironique de son oncle Valois, dit
« Voilà un cardinal qui sent fort le fagot. »« Eh bien qu'on le brûle !» dit avec indifférence le hutin qui de nouveau regardait la porte.
« Qui voulez-vous brûler, mon frère, le cardinal ?»«
Ah, c'est le cardinal! Alors non, 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 il ne faut pas !»
Philippe de Poitiers eut un soupir de lassitude avant de reprendre en appuyant un peu sur les mots. Évrard répondit au cardinal qu'il connaissait un homme qui fabriquait de l'or au profit du comte de Bar. En entendant ce nom, Valois se leva indigné et s'écria
« En vérité, mon neveu, on nous fait perdre notre temps. Nous connaissons assez notre parent le comte de Bar pour savoir qu'il ne donne point dans de telles sottises. Si même dans l'heure présente il n'est pas trop notre ami. Nous sommes devant une fausse dénonciation de diablerie, comme il s'en fait 20 chaque jour, et qui ne mérite pas d'y ouvrir les oreilles. »
Si calme qu'il s'imposa d'être, Philippe finit par perdre patience.
« Vous avez bien, mon oncle, ouvert vos oreilles aux dénonciations de sorcellerie quand elles atteignaient Marigny. Veuillez au moins accorder Louis à celle-ci. D'abord, il ne s'agit pas du comte de Bar, ainsi que vous l'allez voir, car Évrard n'alla pas chercher l'homme qu'il avait dit, mais présenta au cardinal un certain Jean Dupré, autre ancien templier qui se trouvait lui aussi à Valence par hasard. C'est bien cela, Évrard. »
L'interrogé approuva silencieusement, inclinant la tête si bas qu'il montra sa tonsure.
« Ne vous semble-t-il pas, mon oncle, reprit Poitiers, que voici bien des hasards ensemble, et beaucoup de templiers du côté du conclave à rôder autour du neveu de Boniface ?»«
En effet, murmura Valois. »
Revenant à Évrard, Poitiers lui demanda brusquement, « Connais-tu messire Jean de Longwy ? »